Bonjour et bienvenue sur Inter. Nous sommes le mardi 20 octobre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 34 opérations de police menées dans les milieux islamistes, deux associations dans le collimateur de la justice et la mosquée de Pantin menacée de fermeture. Le gouvernement lance la riposte après l'assassinat de Conflans-Sainte-Honorine. On en parle à 7h50 avec votre invité Léa.
Oui, il ne s'est pas exprimé à la radio et à la télé depuis la décapitation de Samuel Paty vendredi dernier. Sa parole est très attendue. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure. Les autres titres, Agnès.
Et les hommages se multiplient. Marche blanche ce soir dans les Yvelines et hommage national à Samuel Paty demain soir à la Sorbonne à Paris. Dépistage de masse dans les universités de Lorraine avant le retour des étudiants dans leur famille. Les chauffeurs de poids lourds en première ligne face aux nouvelles règles du Brexit. Reportage dans le Kent. Et puis Adieu les cons, le nouveau film de et avec Albert Dupontel.
À 8h20, on se retrouvera avec Léa pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor. C'est le premier groupe hôtelier d'Europe. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. La fin des premières gardes à vue approche. Hier soir, une quinzaine de personnes étaient toujours entendues, dont quatre collégiens qui auraient aidé l'agresseur à identifier l'enseignant contre quelques centaines d'euros. Les investigations ont également révélé qu'Abdullah Kantsorov a tenté de joindre avant l'attaque le père de famille, auteur de la première vidéo, lui aussi toujours en garde à vue. Plus largement, ce sont 80 personnes qui ont posté des messages de soutien au tueur qui sont désormais dans le collimateur de la justice. Emmanuel Leclerc.
Des visites domiciliaires effectuées chez des personnes déjà fichées pour des risques de radicalisation. Il y en a chaque semaine. Elles se sont multipliées depuis 5 ans, mais jamais autant en une seule journée en zone police et gendarmerie, par des agents également de la DGSI. Près d'une quarantaine au total hier sur 12 départements. Et il y en aura comme cela une vingtaine chaque jour, a prévenu l'entourage du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a précisé hier soir que plusieurs interpellations avaient eu lieu en lien avec ces opérations de police, dont certaines, au vu de documents retrouvés, devraient donner matière à des poursuites judiciaires. Mais la mesure la plus spectaculaire, c'est sans aucun doute celle qui cible ces associations dans le collimateur des services de renseignement depuis des années, 51 au total, que l'Élysée et l'Intérieur veulent voir fermer sur des bases juridiques, comme la haine identitaire et religieuse et les troubles à l'ordre public. Ces dernières années, plusieurs décisions de fermeture administrative d'établissements ou d'associations soupçonnées de liens avec des organisations terroristes ont été contestées jusque devant le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur n'a pas toujours gagné.
Deux associations sont ainsi particulièrement ciblées. Le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui affirme n'avoir strictement rien fait sur ce dossier et n'avoir relayé aucune information. Quant à l'association Baraka City, présentée par Gérald Darmanin comme ennemi la République et que le ministre de l'Intérieur veut dissoudre, son avocat, maître Vincent Bringard, dénonce une mesure politique sans fondement.
L'association Baraka City aujourd'hui est la cible d'une décision politique, mais en plus arbitraire. Je crois que l'association Baraka City, elle intervient depuis plusieurs années. C'est une association humanitaire qui exécute et exerce ses activités dans le monde entier avec des centaines de milliers de donateurs. Et qui apporte une aide extrêmement considérable aux personnes qui en ont besoin. Et c'est pour ça qu'il y a un effet de surprise assez considérable dans la décision qui a été annoncée par Gérald Darmanin, parce que il n'y a aucun lien déjà entre cet attentat et les activités de l'association. Et de façon plus générale, l'association a toujours condamné le terrorisme, en plus généralement d'être à milieu de toute forme de radicalité.
Un propos recueilli par Julien Langlais. Enfin, hier soir, le ministre de l'Intérieur a également demandé la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. L'hommage national à Samuel Paty aura lieu demain à 19h dans la cour d'honneur de la Sorbonne à Paris avec un discours du chef de l'État. Ce soir, ce sont les habitants de Conflans-Sainte-Honorine, les parents d'élèves et les syndicats qui vont rendre hommage à cet enseignant d'histoire-géographie. La marche blanche partira du collège à 18h30 pour rejoindre la place de la liberté. Rémi Brancato.
Devant le collège où s'amoncellent les fleurs en hommage à Samuel Paty, des anciens élèves, des parents, des voisins, des anonymes aussi venus de loin, et tous reviendront marcher ce soir.
Moi je pense à la famille et je suis triste.
Ça va être très silencieux, tout le monde sera très triste, bouleversé je pense.
Cette marche blanche tient à cœur à Michel, retraité.
Je souhaite que ça soit une marche pour la liberté d'expression.
Mon grand-père est mort dans les tranchées pour la paix de la France. Mon père a laissé son bras pendant la guerre. Il serait malheureux de voir ça.
faut se réunir tous pour dire qu'on est contre ça.
Et ce message, les habitants de Conflans veulent le porter ensemble.
Si les gens sont là, c'est qu'ils en ont besoin.
Depuis vendredi, Marie-France ne réalise toujours pas.
Tout le monde est choqué. C'est quand même des problèmes sociaux. Nous engendrons ce genre de choses. Des sociétés qui ne sont pas encore tout à fait civilisées. La démocratie, il faut que nous continuions à l'inventer.
Et au-delà de la marche de ce soir, il faudra honorer la mémoire de ce professeur, insiste Arthur, enseignant, venu des Hauts-de-Seine.
Quelqu'un a proposé qu'on rebaptise l'école au nom de Samuel Paty. Oui. On doit s'en souvenir comme quelqu'un qui a été victime et qui a porté l'étendard de la liberté.
Alors le professeur se rendra aussi demain à la Sorbonne pour l'hommage national, cette fois, à son collègue assassiné.
Et puis ce matin, les patrons France des grands réseaux sociaux et plateformes Facebook, Twitter, Google, TikTok et Snapchat sont convoqués par la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, pour trouver les moyens de mieux contrer le cyber-islamisme. Et rappelons que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sera l'invité de France Inter tout à l'heure à 7h50. C'était un doute, une rumeur persistante, c'est désormais une certitude. Les sages du Conseil constitutionnel ont validé les comptes de campagne de Jacques Chirac lors de l'élection présidentielle de 1995, alors qu'il présentait de très nombreuses irrégularités, tout comme ceux de son rival de droite, Édouard Balladur. Révélation ce matin de la cellule Investigation de Radio France. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h.
Il est 7h06, Agnès, plus de 2000 malades en réanimation. C'est un seuil qui n'avait pas été atteint depuis le mois de mai.
Et la situation est particulièrement tendue en Ile-de-France, où plus de la moitié des lits en réa sont désormais occupés par des patients Covid. En France, au cours des dernières 24 heures, 146 décès ont été recensés. Et alors qu'approchent les vacances pour les étudiants, des campagnes de dépistage sont organisées pour éviter la propagation du virus dans les familles. Une vaste opération a ainsi débuté hier sur les campus de l'université de Lorraine à Nancy. Reportage de Mohamed Chibani.
Masque sur le nez, sa carte vitale en main, Mathilde a pris son courage à deux mains et se présente dans cette grande salle du rez-de-chaussée de la faculté de lettres. Pas d'attente, elle est directement prise en main par une infirmière revêtue de sa combinaison de protection.
Je vous laisse garder votre petite étiquette, le masque. Au niveau de la bouche, c'est un petit écouvillon dans la narine, une dizaine de secondes, et après vous irez voir mes collègues. On y va ? Hop là !
C'est pas grave du tout.
C'est la première fois que Mathilde réalise un test Covid.
Je vois de la famille prochainement, donc je préférais vérifier au cas où. C'est plus sûr, comme c'est des grands-parents, c'est mieux de vérifier avant, je trouve.
Tube de l'écovillon en main, l'étudiante se dirige vers la prochaine étape avec Clément, infirmier volontaire au 1054.
Donc je vais réaliser le test qui va durer 15 minutes, d'accord ? Le temps que le réactif monte et nous dira si vous êtes positif ou négatif. Alors, 5-6 gouttes, on est bon. Et donc 15 minutes d'attente avant d'avoir le résultat. C'est comme un test de grossesse pour schématiser. Une barre, vous êtes négatif, deux barres, vous êtes positif.
15 minutes plus tard, le résultat tombe.
Donc c'est négatif.
Ça va bien.
Ouais, ça marche. Donc n'oubliez pas le port du masque, les gestes barrières, la distanciation sociale, etc. Vous faites très attention et vous restez vigilant. C'est pas parce que vous êtes négatif aujourd'hui que vous le demeurez.
Demain.
Ok, ça marche.
Bonne journée à vous.
Merci d'être venu vous faire dépister.
De rien.
Bon prix.
Reportage de Mohamed Chibani de France Bleu Sud-Lorraine qui précise que les tests se poursuivent aujourd'hui sur le campus de Vendeuvre. Et puis en Europe, un premier pays reconfine, c'est l'Irlande. Les écoles vont rester ouvertes, mais les commerces non essentiels vont baisser le rideau demain soir. Le détail dans le journal de 7h30. Une petite révolution pour près d'un million de professionnels libéraux, soignants, experts comptables, notaires, pharmaciens, auto-entrepreneurs. Ils devraient bénéficier à partir de juillet prochain d'indemnités journalières maladie dès les premiers jours de l'arrêt de travail. Le gouvernement a déposé un amendement au budget de la Sécurité sociale, révèle les Échos ce matin. Et pour financer ces prestations, une nouvelle cotisation va être instaurée par décret.
Il est 7h09 et le temps presse.
Oui, le temps presse, c'est le nom d'une campagne de sensibilisation lancée cette semaine au Royaume-Uni. Le Brexit, c'est dans un peu plus de deux mois et les entreprises ne sont pas prêtes. Les chauffeurs routiers, par exemple, ils sont en première ligne face aux futures règles. Richard Place est allé à leur rencontre dans le Kent, là où ils transitent tous vers ou depuis l'Europe.
Sur ce parking, près de 400 poids lourds se garent chaque jour. Les chauffeurs dorment là, ils peuvent se restaurer et se doucher. Stéphane est bulgare, il remplit ses bouteilles d'eau. Il vient au Royaume-Uni trois fois par mois. À partir du 1er janvier, il subira des contrôles douaniers.
À cet instant, nous n'avons aucune information.
Parce que les Anglais n'en savent rien et parce qu'ils veulent toujours être différents du reste du monde. Ça va être un grand bazar.
Brian n'est pas plus optimiste. Ce chauffeur gallois a bien vu des marquages au sol dans les ports français et quelques maigres indications, mais rien côté britannique.
Ça va être un cauchemar. Je vais être honnête avec vous. J'ai voté pour quitter l'Europe. Si je pouvais voter à nouveau, je voterais pour rester.
Cette pagaille en perspective inquiète aussi Darren Smith, le directeur de cette aire de repos.
Nous travaillons en lien étroit avec le département des transports. Ils viennent à partir du mois prochain ici. Ils s'installeront pour informer les chauffeurs, leur expliquer comment ça va se passer, les aider pour le Brexit.
Il note une augmentation du trafic routier ces dernières semaines. De nombreuses compagnies britanniques font des stocks en prévision du début d'année prochaine et de l'incertitude qui l'entoure. Ashford, Richard Place, France Inter.
Barbara, c'est le nom de la tempête qui arrive sur les côtes françaises. Quatre départements, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et le Tarn sont en alerte orange pour vent violent. Le début ce soir de la Ligue des Champions, trois clubs français en lice. Le Paris Saint-Germain accueille les Anglais de Manchester United à huis clos dans le Parc des Princes. Et puis c'est un jour historique pour les Bretons. Rennes dispute son premier match de Ligue des Champions face aux Russes de Krasnodar. Et puis demain, Marseille jouera à Athènes face à l'Olympiakos. Enfin, sortira pas, le couvre-feu est un vrai casse-tête pour les producteurs de cinéma. Certains repoussent dans l'attente de jours meilleurs, d'autres maintiennent le calendrier. Le nouveau film d'Albert Dupontel sortira bien demain. Adieu les cons, de et avec Albert Dupontel donc, mais aussi Virginie Efira et Nicolas Marié. Une comédie tragique, pleine de tendresse, Eva Bétan.
On pourrait croire qu'il invente Albert Dupontel, car la mesure n'est pas son registre, mais en fait c'est notre monde. Sévit dans notre société le jeunisme qui vaut à un expert du numérique, un vieux geek, d'être remplacé par un geek plus fringant, tandis qu'une coiffeuse qui n'avait pas réalisé que la laque n'était pas très écolo en devient malade. Notre vie empire, tout au moins on l'espère, puisque l'un a la police aux trousses et l'autre le cimetière pour horizon. On n'en dira pas plus si ce n'est que s'ajoute un beau personnage d'archiviste aveugle pour une course contre la montre et contre le monde, et on espère pour eux au moins une petite victoire. Ensuite, c'est Albert Dupontel qui passe par l'artifice pour faire naître des émotions. Une rue, un rond-point, par l'éclairage, l'angle de vue, prennent ici des allures de conte. Il fallait oser mettre du rire dans une scène d'annonce de la maladie, assumer le mélo un mélo comme on n'en fait plus. Il faut de la grâce pour que tout cela tienne et fasse sens, et elle est là, la grâce. Adieu les cons, ces bravaches. Dupontel ne cède pas sur la révolte, mais il la colore fortement d'humanité. Si nous ne gagnons pas, au moins aimons-nous que diable.
Et Adieu les cons est un film inter, Nicolas, il sort demain sur les écrans.
Merci Agnès Soubiran.